Avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, avis critique, explorent toutes les disciplines et les indisciplines. Ravi de vous retrouver pour cette troisième saison d'Avis Critique au cours de laquelle nous continuerons d'aborder l'actualité des essais. Rien ne change, ou presque, chaque semaine, deux journalistes qui ont fait des idées leur matière première viendront discuter, débattre de deux ouvrages choisis dans l'abondante production éditoriale des non-fictions. Ce soir, comme chaque semaine donc, deux essais sous les feux de la critique, deux livres d'historiens qui ne sont pourtant pas à proprement parler des livres d'histoire. Dans « Des hommes justes » publié au Seuil, Yvan Jablonka se penche sur la question brûlante de l'égalité entre les sexes, un essai post-MeToo qui se demande pourquoi la révolution féministe du XXe siècle n'a-t-elle pas débouché sur la sortie du patriarcat. C'est un tout autre sujet qui est abordé par Christophe Prochasson dans « Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État » paru chez Fayard. Ce spécialiste des relations entre les intellectuels et les hommes politiques interroge, fort de son expérience personnelle, la possibilité pour un intellectuel de devenir un homme de pouvoir, c'est-à-dire de décision et d'action. Et en studio pour débattre de ces deux livres, on retrouve des voix désormais bien familières de nos auditeurs. Eugénie Bastier du Figaro, bonsoir Eugénie.
Bonsoir.
Et Laurent Hêtre de l'Humanité, bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre d'Yvan Jablonka, « Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités » paru au Seuil dans la collection « Les livres du Nouveau Monde ». Historien et écrivain, Yvan Jablonka a entrepris depuis plusieurs livres de bousculer le genre et le style de sa discipline. C'est notamment le cas dans « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu », récit de micro-histoire dans laquelle il partait sur les traces de ses grands-parents déportés, ou dans Laetitia ou la fin des hommes, qui avait reçu à l'époque le prix Médicis, c'était en 2016, qui revenait sur un fait divers, l'assassinat d'une jeune fille, pour étudier un phénomène de société qu'on appelle désormais féminicide. L'essai qui nous intéresse aujourd'hui prend en quelque sorte la suite de cette réflexion, puisqu'après la fin des hommes, il s'agit de penser la construction de l'homme nouveau, un homme juste. Jablonka va jusqu'à parler de mec bien, introduisant une forme de normativité de jugement moral dont il va sans doute être question. Car c'est bien de ça qu'il s'agit, après avoir interrogé le phénomène et la permanence du patriarcat dans l'histoire longue, mettre en place une éthique masculine qui touche à la famille, l'entreprise, la religion, la politique, la ville, la sexualité, le langage. Car Yvan Jablonka en est convaincu, si malgré une révolution depuis la fin du 19e siècle dans le droit des femmes, dans les droits des femmes, la pérennité du système d'inégalité et de domination entre les sexes ne pourra être dépassée qu'en transformant radicalement ce qui fonde le masculin. Laurent Hêtre. Alors c'est un essai post-MeToo, je le disais, qui entend aborder ce nouveau tournant féministe en s'interrogeant sur les conditions pour que les hommes puissent y participer.
Oui, Raphaël, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un livre très très riche, très documenté, avec énormément de références. Alors sur la forme, vous avez effectivement fait le lien avec les précédents ouvrages d'Yvan Jablonka, où il y avait toujours cette volonté de jouer sur les frontières entre sciences sociales, faits divers ou récits personnels. Là, c'est un peu moins présent dans cet ouvrage. Hein, on est plus dans l'essai de socio-histoire classique, même si Yvan Jablonka revendique d'avoir nourri sa réflexion sur le masculin et le féminisme, en l'occurrence, à l'aune de son vécu d'homme, hein, son vécu d'homme, de père, de mari, mais ça reste plutôt en toile de fond de sa réflexion. Ce livre, vous l'avez dit, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est, on peut dire, une prospective sur les transformations du masculin, mais c'est d'abord, je crois, une histoire au long cours du féminisme et du patriarcat. Yvan Jablonka remonte aux premières divisions du travail dans le paléolithique pour identifier les origines du patriarcat. Il évoque ensuite, bien sûr, tous les foyers de diffusion de ce patriarcat, donc les États mésopotamiens, la Grèce antique, l'Empire romain, les monothéismes proche-orientaux, la civilisation chinoise. Tout ça pour dire qu'on voyage avec ce livre à travers les époques et les continents, à travers les religions et les cultures, pour explorer à chaque fois de la façon la plus détaillée possible la façon dont la condition des femmes dans l'histoire s'est construite comme une condition globalement dominée. Et de la même façon, je trouve ça intéressant, au niveau des résistances et des combats féministes, on retrouve la même érudition dans le propos d'Yvan Jablonka, avec l'évocation des grandes figures, évidemment, hein, Olympe de Gouges dans la Révolution française, Simone de Beauvoir, évidemment, la marxiste allemande Clara Zetkin, qui est à l'origine de la journée des femmes en 1911. Il est question, par ailleurs, évidemment, des mouvements de suffragettes et de suffragistes, fin 19e siècle, en Grande-Bretagne, mais également aux États-Unis, et jusqu'à des personnalités plus actuelles, hein, comme la romancière Leila Slimani, prix Goncourt 2016, qui est beaucoup intervenu dans le mouvement MeToo suite à l'affaire Weinstein. Alors tout ça pour dire que c'est un livre qui brasse très large, mais on ne perd pas quand même de vue le fil conducteur qui est au fond cette invitation faite aux hommes à pratiquer une certaine introspection sur leur rôle, leur comportement de père, de compagnon, de mari, de collègue. Et la première idée intéressante de mon point de vue, c'est que cette introspection, elle n'est pas présentée comme devant être punitive en fait. Elle se présente à la fois comme déterminée à rompre évidemment avec toute domination masculine, tout virilisme, mais ça se fait de façon d'autant plus sereine que les hommes ont intérêt eux-mêmes à rompre avec ce patriarcat qui les a également aliénés au fil des siècles. Parce que les stéréotypes du mâle dominant vont de pair avec une pression sociale qui interdit de présenter des failles, des faiblesses, et qui exige finalement d'être toujours plus performant. Et c'est le modèle, je terminerai sur ça, du male breadwinner, hein, l'homme qui gagne son pain, qu'évoque Ivan Jablonka, un modèle qui est corrélatif de la révolution industrielle et qui fait qu'effectivement un homme qui perd son emploi, en plus de l'insécurité sociale évidemment que ça représente, se sentira peut-être en perte de légitimité plus intime, plus personnelle.
Alors merci Laurette pour cette présentation qui nous emmène dans les quatre parties en effet du livre d'Ivan Jablonka, d'abord sur la formation des sociétés patriarcales, puis sur les combats et acteurs du féminisme, enfin sur les failles, ce qu'il appelle les failles du masculin qui creusent aujourd'hui les inégalités, pour terminer sur une définition, c'est peut-être là le point qu'on n'a pas encore tout à fait abordé dans votre introduction, mais vous ne pouviez pas tout dire dès le début, sinon il ne devrait rien rester pour le reste. Voilà pour la construction de ce livre, Eugénie Bastier, dont j'imagine que vous avez un regard assez critique.
Oui, alors bon, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le monde post-MeToo, le féminisme, etc. J'ai trouvé que déjà, je pense que les deux premières parties du livre sont complètement inutiles, étant donné la littérature existante, il ne fait que résumer des travaux existants sur l'existence du patriarcat, la révolution des droits.
Il n'est jamais inutile de rappeler un certain nombre de choses, surtout dans un livre.
C'est pas très original, en tout cas, c'est une bonne compilation, un bon résumé. Mais je conseillerais au lecteur de se tourner plutôt vers Simone de Beauvoir, qui écrit mieux. Et ensuite, sur la véritable originalité, en effet, c'est que ce livre est écrit par un homme, et un homme qui essaie de définir les nouvelles masculinités. Masculinité au pluriel, évidemment, puisque quand on est progressiste, on ne peut pas parler au singulier, car ce serait de l'essentialisme. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que Monsieur Jablonka n'est pas normatif, puisque je trouve que ce livre est extraordinairement normatif. Et c'est ça que je reprocherais principalement à Jablonka. Il y a un mot qui est très fort au début, il dit « tout militantisme commence par un examen de conscience ». Examen de conscience, hein, une expression qui appartient à un vocabulaire religieux, et je trouve qu'il y a quelque chose de quasiment religieux dans ce livre. C'est quasiment un manuel de catéchisme à l'usage du nouvel homme post-MeToo, puisqu'il va définir une nouvelle morale, il l'assume d'ailleurs, une nouvelle morale, des nouveaux contours de la masculinité, que je trouve extrêmement normatif, précis, injonctif, et c'est ça qui me dérange dans ce livre, c'est son caractère, enfin, chez Jablonka, c'est ce progressisme, en fait, complètement utopique, d'ailleurs le titre lui-même le dit, c'est-à-dire des hommes justes, c'est-à-dire on va définir ce qu'est un bon homme, un mec bien, comme il dit, donc il y a vraiment la définition de ce que devrait être un homme bien, on verra ensuite le contenu peut-être un peu plus tard, mais et c'est ça qui me gêne, c'est cette idée que extraordinairement utopique, voire même totalitaire, c'est-à-dire on va refonder l'homme, on va se servir de la crise de la masculinité, qui est d'ailleurs assez bien diagnostiquée, pour le coup, là je serais d'accord, le constat d'une masculinité aujourd'hui fragilisée, d'hommes qui n'ont plus vraiment de repères, qui ne savent plus quelle est leur place dans la société, mais lui dit il faut rentrer dans cette brèche-là, justement élargir cette brèche, faire fendre le patriarcat, et se servir de cette crise pour refonder un homme nouveau. Et tout ça, c'est un vocabulaire progressiste extrêmement à la fois utopique et moi je pense dangereux et totalitaire parce que il y a cette idée qu'on va changer l'homme, changer la société, et une utopie d'ailleurs assumée mais qui moi me laisse à la fois dubitative et inquiète.
Alors rebondissons là-dessus si vous le voulez bien Laurent Hett, même si ça empêche de parler, peut-être on y reviendra, de la première partie du livre que je trouve moi à titre personnel pas tout à fait inutile, ne serait-ce que pour rappeler justement les différences au sein des combats féministes qui aujourd'hui aboutissent à un certain nombre d'affrontements hein, au sein du féminisme, et peut-être qu'on y reviendra, mais sur cette crise de la masculinité dont Ivan Jablonka dit finalement, en fait, c'est pas vraiment une crise de la masculinité, c'est une crise de la virilité et d'un modèle patriarcal, encore une fois, qui, vous l'avez dit, mais peut-être que vous pouvez développer un petit peu, Laurent Hêtre, est une forme aussi d'aliénation pour les hommes qui doivent être renvoyés systématiquement à ce modèle viriliste qui les oblige à s'intégrer à ce modèle patriarcal avec lequel ils sont peut-être pas tout à fait en adéquation.
Oui, mais ça me permet de rebondir et de reparler quand même un peu de la première partie. En même temps, c'est que cette critique des masculinités de domination, hein, comme Ivan Jablonka les appelle, elle s'inscrit elle-même dans une histoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a en quelque sorte des précurseurs à cette critique qui est faite à travers un certain nombre d'hommes féministes. Alors, ils n'ont pas été nombreux effectivement dans l'histoire, mais je trouve que c'est l'un des points importants de ouvrage, c'est qu'il nous rappelle qu'il y a eu tout au long de l'histoire des hommes qui se sont investis, qui se sont saisis de la cause des femmes. Alors avec toutes les limites et tous les excès et peut-être tous les abus que cela comporte.
Et même presque une impossibilité, il dit une impossibilité pour les hommes d'être véritablement féministes. Ça fait partie de la réflexion du livre.
Oui, pour le fils Dumas, je crois, hein, qu'il évoque, hein, qui à un moment donné s'est vu proposer de prendre la tête d'une association féministe. Et n'a pas pu sous la pression de la société de son temps. Mais il parle par exemple de Condorcet qui en 1790 plaide pour le droit de vote des femmes et pour le droit des femmes à l'instruction. Ça se prolonge en 1848 avec Victor Considérant, un socialiste disciple de Fourier, qui s'insurge sur le fait que le suffrage universel qui vient d'être mis en œuvre n'est pas universel puisqu'il exclut toujours les femmes. Il est aussi question de Engels, le camarade de Marx, qui dans son ouvrage « L'origine de la famille, de la propriété privée de l'État », fait le lien entre les femmes et le prolétariat.
Oui, donc il dessine vraiment cette histoire.
Et,
voilà. Ouais.
Et donc ça, moi je trouve ça très intéressant pour chuter ensuite sur cette critique des masculinités de domination aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des acquis dans l'histoire à réinvestir, à retravailler, à redévelopper.
Oui, alors moi ce que je reprocherais à Jablonka, c'est justement d'avoir une vision de la virilité extrêmement sombre, c'est-à-dire que pour lui, tous les modèles de virilité
sont des modèles de domination.
Sont des modèles de domination, exactement, et les hommes justes sont à venir, il n'y avait pas d'hommes justes dans le passé, puisque même le chevalier du Moyen-Âge est une brute repolie en gentleman, même d'ailleurs il dit l'éthique néo-kiplingienne, c'est-à-dire l'idée que en s'appuyant sur le poème de Kipling, tu seras un homme, mon fils, qui n'est pas une injonction à une forme de virilité dominante, brutale, etc., mais au contraire une virilité de douceur, etc. Même pour lui, ça, c'est un travestissement du patriarcat. Il met la galanterie évidemment dans le même sac que de la domination, comme une espèce de forme de domination cachée, une espèce de vernis. Donc une femme qui, et je l'ai entendu d'ailleurs hier sur France Inter dire que quand un homme cédait sa place dans le métro à une femme parce qu'elle était jolie avec une mini jupe, c'était une forme de domination. Mais je lui rappellerai d'ailleurs que la galanterie, le propre de la galanterie, c'est qu'elle ne s'exerce pas justement envers des femmes qui sont jolie, mais envers toutes les femmes. Quand Louis XIV enlève son chapeau devant une femme de chambre, c'est ça la galanterie. C'est-à-dire qu'il ne l'enlève pas que devant les marquises ou devant les femmes.
Les pages sur la galanterie sont un peu plus développées dans le livre il entend montrer que la galanterie, ça reste une forme de domination parce qu'on reste dans ce qu'il appelle le cercle patriarcal. C'est-à-dire que tant qu'on ne sortira pas de ce cercle d'inégalité entre les sexes. Et d'ailleurs, il est à noter que dans un débat sur le féminisme aujourd'hui, et notamment sur la question du genre, où se pose justement la question de la binarité des sexes. Lui, Ivan Jablonka, s'intègre complètement, il reconnaît la binarité des sexes,
notion. Oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il reconnaît cette binarité des sexes, mais il la vide de toute substance. Parce que, je suis désolée, pour lui, toute forme de différence est réduite à une forme d'inégalité, puisque la galanterie, précisément, c'est une manière asymétrique d'envisager la différence des sexes, mais qui n'est pas brutale ni dominante, qui est justement une forme de parallélisme et de renonciation au pouvoir masculin devant la féminité, etc., qui pour moi n'est pas une forme de domination, mais en effet une forme d'asymétrie, puisqu'elle n'est pas, ce n'est pas un miroir, la galanterie. Or lui, il réduit toute forme de différence à une forme de domination, et donc on se demande finalement en quoi réside la binarité des sexes, puisque elle est réduite finalement à une simple biologie, c'est-à-dire en effet il admet que nous avons des choses différentes entre les jambes, très bien, mais il n'en fait rien de manière culturelle. Et d'ailleurs, pour moi, il y a un grand manque dans ce livre, même s'il l'aborde à la fin dans son épilogue, c'est la question de la paternité. C'est-à-dire que la paternité cette figure, la figure de la masculinité, qui est le fait d'être père, est très peu évoquée. La question de la filiation, qui à mon avis est à l'origine du patriarcat, n'est pas évoquée, et à mon avis c'est un grand manque.
Laurent.
Écoutez, moi je suis un peu surpris parce que j'ai pas du tout lu d'injonction. J'ai pas lu d'injonction dans ce livre. Non, moi j'ai lu vraiment une invitation faite aux hommes à réfléchir sur leur comportement. Je ne vois pas. Il propose des pistes de réflexion, mais il ne dit pas qu'il y aurait une seule façon d'être un homme, de vivre sa masculinité. Voilà, il invite à complexifier le masculin, à y introduire de la diversité, et il qualifie cette diversité de libératoire, et je crois qu'il a raison. La diversité en soi a quelque chose de libératoire, ça libère des potentialités. Rien ne
sauf que pour lui, il y a les hommes justes et les hommes injustes. On ne peut pas dire que toute forme de virilité pour lui est respectée.
Non,
il y a une diversité.
Non, je ne suis pas d'accord.
Il y a les bons hommes et les mauvais.
Non, au contraire, il part de la réalité des rapports hommes-femmes aujourd'hui pour lancer cette réflexion sur les hommes justes. Donc il dresse pas du tout un portrait de l'homme idéal à partir duquel il viendrait juger.
Surtout que là, on confond les hommes et le masculin, ce qui c'est pas tout à fait la même chose dans les propos de
Divan Jablonka. C'est plutôt sur ça que je voudrais venir, parce que pour moi, la limite de l'ouvrage, c'est plutôt... que Ivan Jablonka réduit les enjeux démocratiques actuels à la seule question du genre. Pour moi, c'est ça plutôt qui fait question, alors qu'il faudrait peut-être croiser cette question du genre avec toutes les autres inégalités sociales, territoriales, qui minent également la démocratie aujourd'hui. Il nous dit la démocratie à un point aveugle, c'est la justice de genre. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est pas le seul point aveugle. Il y a également la justice sociale. Alors il fait le parallèle entre justice sociale et justice de genre, mais pour nous dire au fond que la justice sociale c'est un peu une affaire réglée. Je le cite. Il nous dit on pourrait espérer pour la justice de genre ce que les hommes ont osé faire pour la justice sociale. À quand une nuit du 4 août, donc en référence à la nuit du 4 août 1789, l'abolition des privilèges. À quand une nuit du 4 route où collectivement les hommes renonceraient à leurs privilèges. Mais moi je crois qu'il reste encore beaucoup de privilèges économiques aujourd'hui à combattre, et c'est ce que soulignait récemment l'historien de la Révolution française Pierre Cerna dans un grand entretien très intéressant où il évoquait tous les reculs aujourd'hui en matière de progressivité de l'impôt avec l'abolition de l'ISF, les exonérations sur les droits de succession depuis la présidence Sarkozy, tout ça pour dire qu'il y a des dynasties familiales encore aujourd'hui dans ce pays, et donc moi j'aurais attendu que soit davantage envisagée l'articulation des combats féministes et des combats pour la justice sociale.
Mais il s'en fiche de la justice sociale, Jablonka. Ses idoles, c'est Justin Trudeau et Steven Pinker, des progressistes libéraux qui sont d'abord sur des questions sociétales avant d'être sur des questions sociales. Pinker,
je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il s'en fiche.
Hein, il parle de la.
Non,
de
mais
la
je dis, c'est pas
profit.
Son sujet.
Il critique
c'est
la.
C'est pas son sujet, c'est secondaire pour lui par rapport à la justice de genre.
Non, c'est pas ça. C'est que par exemple, il dit la course au profit. C'est un fléau typiquement masculin. Et ça, je trouve que c'est sur ça.
Tous les mots sur Terre sont typiquement masculins.
Il est dans une ambiguïté.
Le massacre de l'environnement, c'est masculin. Le capitalisme, c'est masculin. La pollution, c'est masculin.
Là, vous caricaturez son propos. Ce qui est vrai,
c'est
qu'il y a une ambiguïté.
Tous les mots de la guerre jusqu'à la catastrophe écologique sont causés par les hommes.
On n'entend plus rien.
Il y a une ambiguïté dans son propos, c'est vrai, je trouve. Entre, d'un côté, un axe, on va dire, différentialiste, un féminisme différentialiste, qui l'amène, par exemple, à dire que la course au profit est un fléau typiquement masculin, donc ça veut dire que par contraste les femmes seraient naturellement porteuses de valeurs anticapitalistes, mais en même temps il critique ce féminisme différentialiste par ailleurs, et il prône un féminisme inclusif. Donc je trouve que là effectivement sur ce point il y a une certaine ambiguïté. D'un côté il est sur une tradition de pensée républicaine universaliste qui considère que l'être humain, femme ou homme, doit être considéré indépendamment de son sexe, parce que effectivement il fait bien le distinguo entre sexe et genre. Le sexe, la différence des sexes existe, mais ça nous inscrit simplement dans le prolongement de l'animal, de la nature. Et c'est pas sur ça qu'on construit une civilisation, l'être humain n'est pas une plante, ni juste un animal. L'être humain est un être de symbole, et donc effectivement le genre peut être déconstruit. Je termine sur ça. L'être humain est un être de symbole, et donc le genre, ça n'est pas le sexe, et le genre peut être déconstruit. Ça n'est pas problématique. Au contraire, dans une logique démocratique, c'est nécessaire.
Eugénie Bastier.
Alors, moi, je pense que, effectivement, il a raison quand il dit il y a une crise de la masculinité, une faille du masculin. Et aujourd'hui, on le voit très bien. D'ailleurs, on peut analyser une certaine partie la montée des populistes comme une réaction masculiniste à la révolution féministe. Hein, des gens comme Trump, par exemple, jouent beaucoup là-dessus. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a une véritable crise. On voit aujourd'hui, par exemple, que toutes les courbes montrent que les femmes sont en train de prendre le pouvoir et que les hommes sont déclassés. On le voit à l'école, on le voit dans le travail. Il y a plus de chômeurs chez les hommes que chez les femmes. Il y a une surmortalité masculine, etc. Donc, il y a une véritable crise. La question de lui, c'est, lui, il nous dit, il faut aggraver cette crise en espérant que de cette crise ressorte un homme nouveau. Moi, je trouve que le pari est plutôt risqué. Et je pense que plutôt que de chercher à déconstruire davantage, il faut trouver des nouveaux codes, des nouveaux rites de passage, notamment parce que la masculinité, en effet, est une construction. Mais moi, je pense une construction qui peut être valorisée, qui peut être valorisante. Et par exemple, lui, il se moque des rites chevaleresques ou de la chevalerie ou de la galanterie, mais c'était pour moi des réponses qu'ont apporté la société à cette différence sexuelle, pour la civiliser, la polisser et lui rendre un caractère, l'humaniser tout simplement, justement, pour ne pas rester au niveau de la bête. La galanterie n'existe pas dans la nature, effectivement. Et donc, c'est une richesse. Simplement, je pense que c'est pas parce que les choses sont construites qu'il faut systématiquement les déconstruire, parce qu'il y a des choses qui sont construites et qui sont belles, intéressantes, enrichissantes. La galanterie en fait partie, la chevalerie à une certaine époque en fait partie. Lui, il n'y voit que des rites oppressifs pour la femme. Moi, je ne pense pas. Je pense que chaque civilisation, chaque culture donne des réponses à cette différence des sexes. Il y a des civilisations qui, par exemple, mettent en place le voile pour voiler les femmes, pour éviter qu'elles soient la proie du désir sexuel des hommes. D'autres civilisations inventent la galanterie. Voilà, moi, je préfère la galanterie au voile. Et je pense que en déconstruisant tout, en supprimant toute cette manière d'humaniser les codes, en fait, finalement, on va se retrouver avec la barbarie. Et c'est aujourd'hui le backlash masculiniste qui est en train d'arriver.
Malheureusement, on arrive au bout de cette première. On s'en doutait bien, Laurent, que vous n'étiez pas d'accord. Malheureusement, on arrive au bout. On n'aura pas le temps de rebondir sur tout ce que vous venez de dire, et notamment sur ce déclassement des hommes, Eugénie Bastier, qui, à mon avis, mériterait presque une émission à elle seule pour essayer de comprendre exactement ce que vous voulez dire par là. Mais en tout cas, nos auditeurs peuvent aller lire Ivan Jablonka, Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités. C'est publié aux éditions du Seuil.
France Culture. Avis critique.
Raphaël Bourgois.
C'est la rentrée, l'occasion, s'il en fallait une, d'écouter School de Supertramp. Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous intéresser maintenant au livre de Christophe Prochasson, Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, paru chez Fayard dans la collection Raison de plus. Christophe Prochasson est historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale, mais aussi de la gauche et des intellectuels au XIXe siècle. Il dirige aujourd'hui l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Chercheur, proche du Parti socialiste, il a franchi le Rubicon en devenant un serviteur de l'État, d'abord chargé de mettre en œuvre la politique de refondation de l'école comme recteur de l'Académie de Caen, où il avait été nommé par Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation nationale, puis comme conseiller du président François Hollande pour l'éducation. De cette expérience, il dit être sorti avec le sentiment de ne plus tout à fait appartenir à son milieu de départ, le milieu universitaire donc, soit vraiment s'être agrégé au monde qu'il avait accueilli, le monde politique. La question posée dans ce livre est simple et peut se formuler ainsi. L'historien est-il mieux armé par ses connaissances, la maîtrise de la méthode critique, son statut d'intellectuel pour affronter les dilemmes de l'action politique? Et quand cet historien a fait du rapport entre la gauche et les intellectuels son objet d'étude, a-t-il plus de clés pour trouver sa place et faire prévaloir la raison au moment de l'action? Sa démarche, Prochasson la qualifie d'histoire participante, c'est celle du scientifique qui lâche momentanément son cahier d'observation pour participer, donc. Il ne s'agit pas de mettre en exergue une quelconque supériorité du travail intellectuel, de l'éthique de conviction sur l'éthique de responsabilité, pour reprendre les termes de Max Weber, mais plutôt, Eugénie Bastier, de montrer la difficulté de conserver une posture critique quand on fait l'expérience du pouvoir.
Oui, tout à fait. Alors, s'il y a un lien entre ce livre et celui de Jablonka, c'est peut-être l'idée d'examen de conscience, puisque lui aussi nous fait part de ses innombrables scrupules. A-t-il trahi la cause? Est-il devenu un serviteur de l'État, un conseiller du prince? Et donc, il y a un peu, d'ailleurs, un peu trop, je trouve, d'étalage de ses états d'âme et de ses scrupules à l'idée de participer au pouvoir, comme si c'était quelque chose de dramatique. On sent vraiment que cette question travaille l'homme de gauche qu'il est. Mais c'est aussi intéressant. Je trouve que ce livre développe finalement trois grandes thématiques importantes et fortes. D'abord, évidemment, le lien entre les intellectuels et le pouvoir, qui est une histoire très française depuis l'affaire Dreyfus. Ici, d'ailleurs, plusieurs grands socialistes, on pense à Blum et à Jaurès, qui sont à la fois des intellectuels et des hommes politiques. Ce lien était très fort en France. Aujourd'hui, ils se sont distendus, c'est ce qu'ils constatent. Ils constatent un décloisonnement entre le monde des chercheurs, des intellectuels et le monde des politiques. Donc ça, c'est en soi une problématique intéressante. La deuxième grande problématique, je dirais que c'est celle du rôle de l'histoire en général. À quoi sert l'histoire? Quand on est historien, à quoi sert-on dans la société? Est-ce qu'on sert à avertir? Est-ce qu'on a un rôle d'oracle pour dire attention, la catastrophe va se répéter, il faut voir des similitudes entre le présent et le passé pour éviter qu'ils se reproduisent? Est-ce qu'on sert à éclairer la décision politique? En quoi un historien peut-il être utile à un politique? Ça, c'est intéressant. Et le troisième grand sujet dans ce livre, c'est le rapport de la gauche, en particulier avec le pouvoir, et ce rapport compliqué de la gauche au pouvoir, c'est-à-dire à la fois elle veut l'exercice du pouvoir pour changer le monde, mais en même temps elle a un rapport très critique au pouvoir, elle veut un monde sans tribun ni tyran, et comment, quand on est un homme de gauche, peut-on aborder cette thématique du pouvoir? On est toujours soupçonné, on a toujours un procès en trahison, un procès en compromis, c'est l'éternelle histoire de la gauche, un procès en renoncement, et il aborde ces questions. Alors en soi, ces trois problématiques sont extrêmement intéressantes, elles sont très actuelles, elles sont passionnantes, mais malheureusement, je trouve que le livre n'est pas à la hauteur des idées qu'il prétend développer, puisque c'est un livre assez aride. J'ai dit, voilà, il y a beaucoup d'étalages de scrupules qui sont pas très intéressants. On aurait bien aimé, puisqu'il a été en effet au cabinet de François Hollande et recteur, on aurait bien aimé qu'il nous parle davantage de son travail au quotidien, justement comment en tant qu'historien il a pu aider à certaines décisions. On a l'impression qu'il a une sorte de pudeur à expliquer véritablement l'action qu'il a pu mener, par exemple sur l'éducation nationale. Il parle rapidement des rythmes scolaires, par exemple, ou de la réforme des programmes, mais on n'a pas vraiment de contenu là-dessus. Et donc, c'est un livre qui manque de chair, qui manque de contenu, d'expérience, et je trouve ça un peu dommage.
Même si ce dont on se rend compte, c'est que justement, au quotidien, le conseiller du président, tout comme peut-être beaucoup plus que le recteur d'académie d'ailleurs, n'a pas tant d'impact que ça sur l'évolution des choses. Il accompagne le président pour lui écrire des discours qui lui sont renvoyés systématiquement.
Notes,
il lui fait des notes dont il ne sait pas très très bien si
lui fait rencontrer d'autres intellectuels.
Voilà. Alors ça c'est peut-être le rôle qu'il estime avoir été le plus important dans cet écart qui se creuse entre les intellectuels et les hommes politiques, c'est d'avoir essayé de rapprocher un petit peu ces deux mondes, Laurent Hêtre.
Oui, mais justement, ce rôle de conseiller, notamment ce passage sur les discours, les allers-retours sur les discours de François Hollande entre le petit groupe des conseillers et le bureau du président, c'est quand même très très lisse et très banal. Hein. Je veux dire, c'est le travail de n'importe quel conseiller, qu'il soit présidentiel, ministériel ou simplement parlementaire. Donc, effectivement, moi je trouve que ça manque d'exemples percutants sur l'intérêt démocratique et républicain que représente le fait de faire se confronter ces deux univers a priori distincts que sont l'univers des universitaires dont est issu Christophe Prochasson, un univers formé au temps long de la recherche, à l'art du questionnement, et l'univers des conseillers du sommet de l'État et des hauts fonctionnaires. Donc je trouve que ça manque de relief, mais peut-être parce qu'il y a derrière une vision de la politique qui est finalement très institutionnelle. Moi, je crois que c'est ça surtout qui ressort de cet ouvrage. Il met en avant les deux figures weberiennes que sont le politique et le savant, en invitant donc un peu contrairement à ce que préconisait Weber, à aller plus loin dans le travail de ces deux figures ensemble, les faire travailler davantage ensemble. Mais moi je trouve qu'il y a un grand absent dans ce face-à-face du politique et du savant, c'est le peuple. C'est la figure populaire. Ici, le politique est quand même globalement résorbé dans la figure de du dépositaire de l'autorité publique. C'est un peu, je trouve, c'est un peu restrictif, surtout d'un point de vue de gauche, qui est celui de Christophe Prochasson, donc un point de vue qui est censé se préoccuper un peu des intérêts des classes populaires, des intérêts du monde du travail. Alors c'est vrai que Christophe Prochasson se place dans une tradition très social-démocrate, hein, il le revendique, mais même ce socialisme social-démocrate, je crois pas historiquement, son horizon, c'était simplement d'organiser un débat démocratique tempéré entre savants et politiques sous les ordres de la République. On parlait de Jaurès, il évoque effectivement beaucoup Jaurès, il se place un peu dans cette filiation. Mais le socialisme de Jaurès, c'est effectivement un socialisme républicain qui prend toute sa place dans le jeu institutionnel, mais avec toujours une volonté constante et je dirais même farouche de transformer les structures sociales dans le sens de la justice. Jaurès parlait de faire rentrer la République dans les usines, dans les ateliers. Donc sa République, elle était évidemment institutionnelle, mais elle était aussi sociale et je dirais presque même autogestionnaire. Et cette inspiration, je trouve, disparaît du champ de la réflexion de Christophe Prochasson. Et c'est dommage du point de vue même de sa problématique sur les rapports entre savoir et pouvoir. Parce que c'est aussi dans cette quête d'une république sociale que se rencontrent aujourd'hui des chercheurs et des politiques à différents niveaux de la vie de la cité, et pas simplement dans la haute fonction publique ou dans les cabinets ministériels.
Alors, c'est peut-être aussi ce qui vous a frustré l'un et l'autre, la limite de l'exercice du pouvoir tel que Christophe Prochasson l'a vécu, puisqu'en fait, d'un côté, en effet, il se positionne dans une histoire et dans une tradition socialiste qui n'est pas celle de la sortie de l'histoire, des matins qui chantent et du grand soir, mais plutôt d'améliorer, comme il le dit, pied à pied, jour après jour, la vie des gens. C'est comme ça qu'il vit son engagement à gauche, puisqu'il le dit aussi, toute recherche.
Mais ça manque d'exemple.
Il y a toujours un peu de militantisme dans la vie scientifique. Et justement, ils se retrouvent confrontés. Ils sont là les exemples. Il y en a quand même sur la question de la commémoration, sur la question peut-être de ce qu'il peut faire lorsqu'il est conseiller de François Hollande. C'est justement, ils se heurtent aux limites même de l'incapacité. Et ça, je trouve que c'est un des points peut-être intéressants. Je voulais vous entendre là-dessus du livre. Cette incapacité de communiquer, c'est-à-dire de parler la même langue que les hommes et les femmes politiques qu'il a en face de lui. Cette incommunicabilité qu'avait d'ailleurs dans la même collection analysé aussi un petit peu Agathe Cagé, entre le savant et le politique, Jeanne Bastille.
Oui, et puis c'est une faille qui se creuse davantage tous les jours, même si on a vu qu'Emmanuel Macron avait invité une soixantaine de chercheurs à l'Élysée. Mais
on voit que les chercheurs eux-mêmes sont revenus.
Voilà, exactement, et on a vu que c'était plutôt une occasion de communication et de prise de parole par le président de la République lui-même qu'une véritable réflexion engagée, etc. Je pense que c'est un véritable problème aujourd'hui. Et là, il soulève une question intéressante, c'est-à-dire dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus spécialisé, quelle place on peut laisser à l'intellectuel, la figure de l'intellectuel à la française, qui n'est pas un spécialiste, qui n'est pas un expert, un technocrate, mais qui pense large et qui a une vision globale de l'histoire, du monde, dans la grande tradition évidemment de l'affaire Dreyfus avec Zola. Et puis ensuite, le prolongement avec l'idée de l'intellectuel engagé par Sartre. Quelle est cette place de l'intellectuel aujourd'hui? On voit qu'elle est, elle est très peu écoutée par le pouvoir. Il y a un repli scientifique des intellectuels, notamment à gauche, ça c'est très visible. C'est-à-dire que les intellectuels de gauche vont moins dans l'arène. On a une forme même de tellement de défiance et de dégoût envers le pouvoir, parce que le pouvoir, dans une perspective un peu foucaïdienne, c'est le mal, et du coup le pouvoir c'est le mal, donc il faut surtout pas être mêlé au pouvoir, donc on se replie dans sa science, dans ses labos ou dans des cercles acquis à la cause. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce que lui, au moins, assume l'idée que voilà, je suis un intellectuel de gauche qui va dans l'arène, qui n'a pas peur du pouvoir, qui veut l'exercer et qui veut en effet agir concrètement sur le monde sans attendre un grand soir utopique. Et d'ailleurs, on lit entre les lignes qu'il est assez critique vis-à-vis d'une certaine sociologie militante. Il parle de la politisation de la sociologie. On voit qui vise. Il parle de la phrase de Manuel Valls
sur l'excuse sociologique.
Voilà, sur l'excuse sociologique, même s'il la condamne tout en disant que elle a eu des, enfin les réactions étaient un peu disproportionnées de la part des sociologues, etc. Mais cette phrase était très intéressante justement parce qu'elle est un peu symptomatique de cette dissociation entre les intellectuels et le monde politique. Et donc moi je trouve que sa démarche était intéressante. Encore une fois, elle manque un peu de chair. On a du mal à voir quelle a été, lui, son utilité, finalement, dont il nous parle.
Laurent, peut-être vous voulez réagir sur cette question de l'incommunicabilité ou alors sur cette réflexion aussi sur le rôle de
sur les deux, non, moi je maintiens qu'il y a encore aujourd'hui dans la gauche, et c'est une tradition qui se porte bien, il y a une tradition de pensée à la fois socialiste, républicaine, mais également marxiste et anarchiste, qui a toujours voulu permettre au peuple de devenir et le savant et le politique. Et là, la réflexion de Christophe Prochasson, c'est une infime partie de ce qui s'appelle la gauche, si on peut appeler ça la gauche. Donc ça, c'est un point. Ensuite, moi, ce que je dirais, c'est que il surévalue beaucoup, je trouve, la distance entre l'univers des universitaires, des intellectuels dont il est issu, et celui des représentants de l'État. Moi, je veux bien entendre qu'il y ait des hiatus culturels, des difficultés dans les façons de communiquer, des modes de réflexion différents. Il le dit très bien, des rapports à l'actualité qui sont différents. Les politiques sont pris dans ce que François Hartog, un autre historien sur lequel s'appuie Christophe Prochasson, appelle le présentisme. Donc effectivement, tout ça menace la démocratie aujourd'hui, et on a besoin, oui, d'universitaires, d'intellectuels, pour permettre peut-être aussi aux politiques en général de prendre du champ, de ne pas se laisser emporter par certains emballements médiatiques. Mais moi, je trouve que malgré tout, au-delà de ça, les distances sont quand même pas à un point tel qu'on puisse parler des universitaires et des représentants de l'État comme de classes différentes avec leurs transfuges de classes respectives. Il se met en comparaison avec un intellectuel britannique, Richard Hogarth, qui était le fondateur des études culturelles britanniques et qui vient d'un milieu ouvrier. C'est l'auteur d'une autobiographie 33 Newport Street sur ses origines ouvrières. Et il raconte comment il est resté fidèle à cette classe d'origine. Mais Christophe Prochasson, là, ne parle pas du tout de la même chose. Il parle d'un pas de côté transitoire dans sa carrière universitaire. C'est pas du tout les mêmes enjeux en termes de fidélité ou de trahison par rapport à une appartenance de classe d'origine. Donc je crois surtout qu'il y a dans ce livre une confusion des genres et des enjeux.
Ce que raconte Christophe Prochasson, encore une fois, c'est cette impossibilité de rencontre entre le savant et le politique, et ça passe aussi par exemple par ce qu'il dit quand il dit que les querelles académiques franchissent mal les frontières du petit monde qu'elle concerne, et que donc parler, notamment faire vivre le débat intellectuel dans le débat politique, c'est presque impossible. Génie Bastien, moi j'ai lu quand même aussi ce livre comme une forme de mélancolie face à aussi une incapacité, ou en tout cas une forme de modestie face à la capacité de l'intellectuel à véritablement agir dans le champ intellectuel, et donc il doit se départir de ça pour agir aussi en politique.
Oui, alors il y a évidemment il y a une forme de nostalgie même, je dirais, pour finalement un passé qui a tendance lui aussi à dépeindre, voilà, où les liens étaient plus forts entre intellectuels et politiques. Il y a une forme de, même s'il s'en défendrait, je pense, une forme de déclinisme en disant voilà, c'est tout ça paravolo. Mais c'est ce qui est paradoxal. Moi, je pense que dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas en tant que savant en général, mais aussi en tant qu'historien. Et la question de l'histoire et de la politique est encore plus spécifique et encore plus intéressante, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une véritable problématique sur les usages de l'histoire en politique. Et lui, il le voit très bien, puisque son rôle consiste aussi beaucoup à préparer les commémorations. Il parle de la commémoration du 70e anniversaire du débarquement.
À l'époque, il est recteur de l'Académie de
Caen. Voilà,
donc, évidemment,
comment faire vivre la mémoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce paradoxe entre une politique extrêmement extrêmement présentiste, qui court après les sondages, prend des décisions jour le jour, et en même temps extrêmement commémorative, puisque ça, on l'a vu déjà sous Nicolas Sarkozy, puis sous François Hollande, puis sous Emmanuel Macron, le rythme des commémorations s'accélère, il y en a quasiment tous les jours, c'est devenu une véritable politique d'État, la politique de commémoration, et donc quel rôle doivent tenir les historiens dans cette politique de commémoration? Est-ce qu'ils sont là pour éclairer les choix? Est-ce qu'ils sont là pour les freiner, au contraire les encourager? Lui, on sent qu'il est un peu, à la fois il trouve ça sympathique, mais il est un peu dubitatif sur les fruits de ces commémorations, et il est un peu dubitatif sur l'instrumentalisation de l'histoire par la politique. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire quel est le rôle d'un historien engagé? Est-ce qu'il est là juste pour fabriquer de la commémoration au service des politiques? Est-ce qu'il est là pour, comme il dit, l'historien engagé n'est pas le directeur d'une banque de faits, il critique beaucoup l'histoire fact-checking, c'est-à-dire d'aller vérifier si les hommes politiques ont dit des choses justes de manière sur l'histoire. Il dit voilà, les historiens n'ont pas ce rôle-là. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est l'usage de l'histoire en politique. Est-ce que c'est un usage explicatif, comme il dit, ou c'est-à-dire essayer de montrer à quelle tradition politique appartiennent les gens? Est-ce que c'est juste un usage esthétique, montrer qu'on connaît l'histoire? C'est je trouve une dimension intéressante du livre.
Comme le dit Christophe Rochesson donc dans ce livre, Un voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, la commémoration soumet le passé à l'ordre du présent, et donc lui il se retrouve un peu dans cette situation paradoxale d'un historien qui doit abonder, ou en tout cas aller dans ce sens, accompagner ces commémorations. Et il le dit lui-même, hein, il revient un petit peu sur ses premières réticences pour trouver aussi une fonction notamment de se retrouver ensemble, et des élèves qu'il rencontre, il voit bien que ça vient un impact de ces commémorations.
Laurent, oui, effectivement, mais dans son travail de recteur d'académie de Caen, il s'étend beaucoup sur ce rôle qui est le sien, également en tant que historien de formation. Mais sur le rôle de l'histoire pour éclairer le présent, c'est vrai que il pointe beaucoup le fait que nous soyons aujourd'hui peut-être un peu menacés par ce qu'il appelle une tyrannie de l'expert, avec une vision froide des politiques publiques, une vision froide et enfermée vraiment dans le coup par coup, dans le présent, ouais, dans une quête de réactivité vraiment à courte vue. Donc moi je crois qu'effectivement sur ça il a tout à fait raison de pointer cette problématique, mais je trouve que on reste quand même un peu sur le palier, voilà, je trouve que ça n'est pas assez développé, et c'est vraiment dommage pour le coup.
Et sur la question républicaine, parce que c'est un autre point important qui apparaît plus dans la deuxième dans la dernière partie, lorsqu'il est conseiller de François Hollande, et qu'apparaissent les attentats de Charlie Hebdo. Peut-être qu'il est encore recteur à ce moment-là, mais bref, il y a un passage sur cette question des attentats de Charlie, et comment il retrouve à cette occasion-là la possibilité d'aller puiser, malgré un républicanisme qu'il appelle critique, dans une certaine forme de boîte à outils, et d'y retrouver là des outils au service de sa fonction.
Oui, mais il ne développe pas. Là, je vais citer juste un passage sur autour de la République. Il dit « Nous ne pouvons aujourd'hui utilement réanimer Jules Ferry et ses semblables sans risquer de nous perdre dans une mythologie incapable de redessiner les contours d'un destin collectif adapté aux défis de notre temps. En revanche, nous pouvons nous inspirer de leur incroyable énergie pour proposer à nos concitoyens le cadre d'une action collective reposant sur une culture partagée qu'il reste, il est vrai, à préciser. » Ça veut dire quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'il annonce son prochain livre?
D'accord, donc on attendra le prochain.
Oui, en fait, c'est là où il est paradoxal, c'est qu'à la fois il dit il faut pas plaquer le passé sur le présent, c'est dangereux, n'allons pas n'allons pas utiliser le modèle républicain, n'essayons pas de le réinjecter dans le présent, parce que ce modèle de la Troisième République, de toute façon, il est ancien, il est plus adapté, etc. Et en même temps, quand il parle de la querelle de l'école aujourd'hui, il cite des propos de la fin du 19e siècle en disant, vous voyez, déjà à la fin du 19e siècle, il y avait des réactionnaires qui critiquaient les réformes de l'école. Et il cite un passage où un conservateur dit que voilà, les réformes de la Troisième République aboutissent à une école qui n'a plus de niveau, on arrête d'apprendre les langues anciennes, etc. Et il dit voilà, c'est pareil aujourd'hui. Mais là, c'est un exemple de plaquer le passé sur le présent, de dire que finalement, toutes ces critiques ont toujours existé envers le pédagogisme et les réformes de l'école ont toujours existé. C'est une manière de les neutraliser et d'utiliser le passé pour justifier des politiques présentes. Et du coup, il utilise un peu un procédé dont il défend l'utilisation, donc c'est un peu, là je trouve, malhonnête de sa part.
Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, c'est le livre de Christophe Prochasson, publié chez Fayard. Tchap, tchap, tchap.
L'instant critique.
Et on retrouve l'instant critique en fin d'émission, ce moment où Eugénie Bastier, Laurent Hêtre, vous conseillez à nos auditeurs la lecture ou le visionnage. Je ne sais pas avec quoi vous êtes venue, Eugénie Bastier. Vous avez
alors, écoutez,
un peu de lecture.
Un peu de lecture. Je vais être dissidente puisque en tant que journaliste du Figaro, je vais présenter un article du Monde diplomatique.
Très disruptif.
C'est très disruptif. Donc c'est un article du Monde diplomatique de septembre 2019 dont le dossier principal est consacré à l'idée à qui sert la lutte contre la corruption, donc une problématique assez paradoxale. Et il y a un article posthume du journaliste Pierre Péan qui est mort il y a à peu près un mois et qui était donc un grand journaliste d'enquête qu'on connaît. Alors cet article posthume de Pierre Péan concerne le journalisme d'investigation justement envers lequel il était assez critique et justement sur l'idée que ce journalisme d'investigation très médiatique met en avant les scandales de corruption politico-financier plutôt que l'enquête sociale ou le reportage économique, mais en avant des noms, l'affaire Cahuzac, l'affaire Sarkozy, etc., plutôt que de viser notamment les entreprises du privé. On s'attaque, et donc il remonte au mythe du Watergate, évidemment, qui aboutit au renvoi d'un président américain par des journalistes. Et ce mythe fondateur du Watergate a été développé, repris, etc., avec l'idée que l'investigateur devrait viser plutôt l'État qui est le pouvoir, le mal, le méchant, et se désintéresse plus des entreprises privées. Donc il analyse tout cela, il analyse aussi les dérives de ce journaliste d'investigation lorsqu'il se met à violer la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Donc c'est un article intéressant qui est d'ailleurs très actuel, hein, puisqu'on voit... on l'a vu pendant l'affaire Rugy cet été, les limites de ce journalisme d'investigation. Je recommande parce que c'est une bonne réflexion sur ce que devient le journalisme aujourd'hui.
Donc Pierre Péan, dans le Monde diplomatique, vous avez dit que c'est un grand journaliste. Il y avait aussi ses zones d'ombre, il faut les rappeler quand même à chaque fois qu'on en parle, notamment sur la question du Rwanda, voilà qui est fait, Laurent Hêtre.
Eh ben moi, je vais rester dans le prolongement des réflexions d'Yvan Jablonka sur le genre, avec le dernier numéro de la revue Mouvement, Révolte sexuelle après MeToo, numéro qui vient de paraître. On peut y lire, notamment dans ce grand dossier très riche, un compte-rendu d'une étude réalisée auprès d'un panel d'étudiantes françaises sur leur rapport à MeToo, ce que ça a changé dans leur rapport au féminisme, et sur la façon dont ces mouvements ont créé entre elles des liens de sororité, de solidarité et d'entraide. Et on retrouve dans le propos de ces étudiantes le fameux féminisme inclusif cher à Yvan Jablonka. Donc c'est un numéro qui permet aussi d'évoquer les autres déclinaisons européennes de MeToo, notamment en Espagne, où là il y a une convergence des luttes, notamment en Andalousie, avec les féministes qui sont en première ligne face au parti fasciste Vox, hein, qui est entré au Parlement régional en 2018. Il est également question du renouveau du féminisme en Argentine, où on a en ce moment un large mouvement qui porte l'exigence du droit à l'IVG. Le numéro met en lumière aussi des initiatives très concrètes comme le réseau social d'information et d'aide aux victimes de violences sexuelles Smashboard, qui a été créé par une journaliste indienne, Nupur Tiwari, j'espère que je n'écorche pas son nom. On a aussi un article sur la création d'un labo de recherche, donc dans le champ académique, le laboratoire Visage, qui s'attache à questionner le rôle de la violence dans la reproduction de la domination masculine. Mais je dirais que ce qui ressort finalement de ce dossier, c'est surtout le rôle des réseaux sociaux et d'Internet pour libérer la parole des victimes de violences sexuelles et leur permettre de s'organiser et de relever la tête.
Donc la revue Mouvement, dernier numéro publié aux éditions La Découverte. Et le titre c'est Révolte sexuelle
après MeToo.
Merci beaucoup Laurent Hêtre, merci Eugénie Bastier. Je rappelle le titre des deux livres dont il était question ce soir, Yvan Jablonka, Des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités, c'est aux éditions du Seuil. Christophe Prochasson, Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, c'est chez Fayard. Avis critique, c'est terminé. Merci à l'attaché d'émission, Catherine Donnet, à la réalisation aujourd'hui, c'était Rafik Zedine, et à la prise de son, Régis Nicolas. Vous pouvez évidemment télécharger, réécouter cette émission sur franceculture.fr ou vous pourrez vous abonner au podcast d'Avis Critique. C'est important de s'abonner au podcast, comme ça vous ne raterez aucun numéro. Dans quelques instants, Jukebox.